Alors moi, j'ai intitulé mon intervention, cette quatrième veille sur le juste, penser le politique et le juste, mais la guerre. À chaque fois, j'ai vu peut-être dans les intitulés, je mets un titre et puis je mets mais, pour montrer là où il y a le problème, enfin, là où il y a le plus gros problème actuel. Donc, penser le politique et le juste. Donc voilà, là on est au milieu du parcours, vraiment au milieu de ce que j'appelais le chandelier, là. Et le juste, la justice, c'est vraiment justement la balance, hein, qui tient la balance. Ce serait utile peut-être de distinguer dans les lois. Il y a des lois qui sont des lois physiques, hein, la gravitation, par exemple, c'est une loi aussi. Bon, il y a des lois qui sont des lois juridiques. Les lois juridiques, c'est des lois que... comment dirais-je, qu'on peut transgresser, qu'on devrait pouvoir transgresser, mais si on les transgresse, il peut y avoir une punition, une réparation, etc. Il y a une sanction. Et les règles éthiques sont des règles qui sont sans sanction, c'est des règles de bonne volonté, on va dire. C'est des règles qu'on se donne à soi-même. Ce qui m'inquiète un petit peu, hein, je le dis comme ça, c'est qu'il me semble qu'on est dans un monde dans lequel, d'une part, les lois juridiques sont de plus en plus installées physiquement, techniquement, dans des dispositifs tels qu'on ne peut pas transgresser. Ce qui fait que si toutes les lois législatives, ou bien juridiques, étaient entièrement installées dans des dispositifs techniques, on ne serait plus dans une cité humaine, puisqu'il n'y aurait plus de transgression possible. Et puis, du coup, je dirais aussi, l'éthique, elle est en train de s'affaisser, elle est en train de se juridiciser. Comme si l'éthique, c'était que des histoires de règles, de codes, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé dans l'exposé que je viens d'entendre. En fait, justement, l'éthique, ça a à voir avec comment nous interprétons tout ça. Et donc, il y a forcément des conflits d'interprétation. Et en même temps, on a besoin d'un cadre commun. Donc voilà, on est bien sur cette question du juste. Et c'est vrai que l'exigence de justice règle, gouverne les échanges. Alors, je voudrais commencer par une équivoque de la notion de justice en grec. Il y a deux mots, il faudrait aller chercher dans toutes les langues, c'est toujours intéressant les mots, ça dit des choses. En grec, il y a dikai et il y a némésis. Alors, dikai, c'est vraiment la justice de la cité, la justice de la juste rétribution. La némésis, ça a à voir avec justement l'équilibre parfois terrible, en latin, c'est pena, la colère divine presque, la peine comme punition divine, la vengeance divine. Donc la justice comme vengeance, c'est l'idée que le plus fort, parce qu'il est emporté par la force, va dépasser sa limite et va périr par la force. Donc il y a une sorte de justice immanente au monde qui fait que de toute façon, même sans justice, le plus fort finit par succomber. C'est une vieille idée. Je mets ça un petit peu en tête parce que je pense que c'est une distinction qui va nous être utile quand on va rencontrer le thème de la guerre. Alors je commence par l'idée de la règle de justice. Qu'est-ce qu'il y a au cœur, et même au cœur éthique, au cœur moral, on va dire, de toute la justice, hein, en quoi est-ce qu'il y a de l'intérieur du droit quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qu'on ne fait pas parce que sinon on est puni ou parce que voilà, on va essayer de passer à côté, de ne pas se faire prendre, comme disait Pierre. Non, il y a une règle fondamentale qui est justement la règle d'or. Hein. C'est un principe de ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ou fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Il y en a 1000 formules dans toutes les cultures qui disent toujours quelque chose comme ça. Et donc, il y a une sorte de réciprocité dans lequel l'autre est comme moi-même, et moi-même comme un autre, comme n'importe quel autre, avec donc une sorte de répartition équitable dans laquelle chacun va avoir son dû, une sorte de partage égal. Et voilà, traiter autrui comme soi-même, et soi-même comme n'importe qui. Ricoeur a une formule, ça c'est la règle d'or, Ricoeur a une formule plus que j'aime bien, qui dit exercer son pouvoir sur autrui, de toute façon on exerce du pouvoir les uns sur les autres. Donc il faut exercer son pouvoir sur autrui de manière à ne pas le laisser sans contre-pouvoir contre soi. Comment laisser toujours, comment penser le contre-pouvoir que l'autre a sur moi. Alors, ça serait la première règle de justice, on va dire, hein, qui a l'air d'être complètement égale, on va dire, la réciprocité. Oui, mais il y a une autre règle non moins importante et non moins antique, je dirais même archaïque, qui est la protection de la veuve et de l'orphelin. Donc, la protection du petit par le grand, du faible par le fort. Vous voyez, donc là, on n'est plus du tout dans les mêmes logiques. On est dans une logique... D'ailleurs, dans le code d'Hammurabi, on a les deux, par exemple. Vous voyez, c'est intéressant. Bon. Donc, les victimes, les apatrides, le réfugié, le malade, l'enfant vulnérable, les personnes âgées dont on parlait tout à l'heure, etc. Le criminel même, pourchassé par la vengeance. Voilà, il y a un moment où... Donc, on risque de porter tort au trop faible. Et donc, il faut le protéger. Et là, la justice a une fonction, on peut dire, de protection du faible. Donc, la justice a une fonction d'installer la stricte réciprocité, bon, et une fonction de protéger le faible. Après, on peut imaginer des orientations de la justice qui vont encore plus loin, par exemple, en direction de la singularité. On va donner à chacun sa chance. Non pas une fois, non pas sept fois, mais 77 fois, sept fois. On n'a jamais fini d'accompagner quelqu'un, en quelque sorte, de lui redonner sa chance. Ça, c'est une justice très singularisée, on va dire. Bon, elle peut être anonyme, d'ailleurs, hein, mais elle n'empêche qu'elle s'occupe de chacun. Et puis, on peut avoir une conception de la justice, un peu comme on a dans le Jubilé, dans le Deutéronome, ou comme l'avaient pratiqué les certaines réformes à Athènes ou les Gracques à Rome. L'idée du jubilé, l'idée de partager, l'idée de fraternité universelle dans laquelle on partage tout en part égale. Hein, on abolit les dettes et on repartage tout de manière égale. C'est une conception de la justice, on pourrait dire révolutionnaire, mais elle est archaïque elle aussi, elle est très ancienne. Puis après, il y a une figure plus complexe, j'ai presque fini ce petit parcours sur la justice, après j'en vais, dans laquelle on n'est pas d'accord sur quelles règles s'appliquent. Justement, il y a un litige, pas seulement un litige. Litige, c'est on est d'accord sur la règle qui s'applique, mais il y a un différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur quelle règle s'applique. Et c'est ça le problème de l'injustice, c'est que il y a des injustices de salaire, des injustices de milieu de travail, de famille, d'emploi, de pénibilité, d'intérêt, de cadre de vie, de santé. Enfin, même l'injustice va jusqu'à l'injustice divine avec l'idée de grâce. Pourquoi est-ce que les uns ont la grâce et pas les autres, etc. Enfin bon, oui, bon, on pourrait aller très loin. Et donc, c'est pour ça que la syntaxe de la justice ne cesse de changer, parce que c'est quel est le bien qu'on met en priorité? Quels sont les biens qu'on met en priorité? Dans quel ordre est-ce qu'on met les biens? Et donc, dans quel ordre? Et comment est-ce qu'on va composer un compromis entre des grandeurs différentes, entre des grandeurs hétérogènes? Une sorte de droit différentiel, on pourrait dire. Bon, voilà. Et puis, alors, je dirais encore une dernière chose, c'est que le juge, sa fonction, enfin, la justice, la scène de la justice, a d'abord pour fonction de faire entendre la plainte. Hein, avant de juger, c'est d'abord faire entendre la plainte et la faire entendre. Et donc, instituer le conflit des droits, interpréter la règle, comme il vient d'être dit, etc. Bon. Alors maintenant, je passe de la justice au politique. C'était ça mon... Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? C'est justement le politique et justement le cadre qui institue ce conflit des droits et de manière négociée, qui n'est pas juste le plus fort, qui l'impose aux autres. Donc on a besoin d'institutions qui soient plus durables que nos vies éphémères et des institutions qui instituent le conflit. Voilà. En gros, c'est les deux directions de l'institution. Après, on pourrait faire une nuit d'éthique entière sur la notion d'institution aujourd'hui. Elle est tellement abandonnée, elle est tellement jetée dans le caniveau, en quelque sorte, que je pense que le grand problème aujourd'hui, c'est que nous avons manqué à penser nos propres institutions. Il nous faudrait les repenser. Mais en gros, il y a deux directions. Il y a voilà, un espace comme ici, c'est une sorte de théâtre qui est plus ancien que nous, dans lequel il y a eu d'autres générations qui sont venues avant nous, qui l'interprètent chaque fois différemment. Oui, nous, on en a fait un espace de théâtre. On peut imaginer qu'avant, c'était un temple, c'était un peu différent, l'organisation de l'espace. Ça ressemblait un peu quand même. Il y avait quand même des chaises, on a changé un peu, on n'a rien interprété, mais on peut sans cesse réinterpréter. J'ai envie de dire, c'est ça. Une institution, c'est quelque chose qui est plus durable que les vies éphémères des humains, mais et qui leur assure un cadre, quelque chose de plus durable qu'eux-mêmes, une sorte d'assurance. Et puis en même temps, l'institution elle est là pour fonction d'instituer le conflit, justement de l'installer, au lieu que le conflit détruise tout le monde, on l'installe dans un rapport dans lequel tout le monde se tient en respect pour penser la pluralité. Ça a à voir, l'institution a foncièrement à voir avec la pluralité des humains. Alors, je dirais que le politique, comme institution, on pourrait dire porteuse des institutions, qui abrite les institutions, il boite, le politique boite, parce qu'il y a deux grandes traditions dans la philosophie politique, au moins dans la philosophie politique moderne. L'une qui, de l'intérieur, dans laquelle, de l'intérieur, l'éthique oriente le politique et les institutions justes par le sens de la justice, et donc qui va penser la rationalité du politique et la rationalité des institutions, la rationalité du magistrat, hein, au sens ancien du terme, le magistrat, ça peut être le prince, ça peut être l'idée d'une gouvernance légitime. Et puis de l'autre côté, une autre tradition beaucoup plus critique, dans laquelle l'éthique résiste aux abus du pouvoir, aux passions du pouvoir, à l'irrationalité du politique, qui est grande, parce que le politique, il est souvent d'un côté purement technocratique, c'est-à-dire en fait performatif, c'est les moyens, une réflexion sur les moyens, bon, et de l'autre côté, il est facilement démagogique, comme on voit aujourd'hui, avec toute une rhétorique du corps social souffrant, bon, des corporatismes, ou de la société comme corps, on va dire, qui doit chasser les intrus, bon, etc. Et donc, le politique est facilement écrasé en ces deux sortes d'irrationalité, technocratique ou démagogique. Donc, où est le politique écrasé dans tout ça? Et donc, je pense que c'est très important de penser le politique à la fois des deux côtés, c'est-à-dire comme orienté de l'intérieur par une éthique du juste, et d'autre côté, résistant de l'extérieur, protestant et résistant de l'extérieur aux abus et aux abus du pouvoir, aux abus des pouvoirs, de toutes les sortes de pouvoirs. Et je dirais, il y a une démocratie tant que ce dedans-dehors est possible en même temps. Mais aussi, cela éclate. Si on n'est plus que du côté de l'intérieur, on va dire, ou uniquement dans la protestation, ça montre qu'on est au bord de la guerre civile. Et alors, j'arrive à la guerre. Je dirais la guerre, tout y conduit. Il y a des logiques de guerre. Hein, bon, d'une part, on a besoin du conflit pour se remettre ensemble, pour socialiser, hein, pour se rassembler contre. Hein, on revient à l'unité contre un adversaire. Ça, c'est des choses qui ont été observées depuis très longtemps. Ensuite, on a avec la mondialisation des échanges une sorte d'uniformisation de la société. Mondiale, la mondialisation comme uniformisation, on peut dire technique, parce que c'est imposable, on impose aux autres des objets parce qu'ils marchent bien, et donc forcément les autres les achètent, etc. Mais du coup, en retour, il y a une sorte de balkanisation ethnique ou nationaliste, etc. Donc il y a une sorte de double processus dans lequel, d'un côté, on va vers une sorte d'uniformité, d'uniformisation. Du marché, et d'autre part des montées de nationalisme et de protectionnisme et de murs identitaires de plus en plus, et les deux sont concomitants. Plus on veut un capitalisme ouvert et mondial, et plus on va vers des identités de plus en plus fermées. Donc c'est une autre logique de guerre, avec l'idée que justement on peut toujours forcer les autres à faire la guerre, c'est imposable, hein. Le problème de la technique, c'est que c'est imposable aux autres. D'ailleurs, il y a les progrès techniques des armes, mais il y a aussi les progrès dans la galvanisation psychique de la guerre, hein. Le kamikaze, la nation galvanisée. Il y a du religieux, bien sûr, il y a du sacré, puisqu'il s'agit de mourir pour. Je pense qu'il faut bien voir quand même que les guerres ont été des grandes productrice de sacré. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'accumulation, les grandes accumulations qui préparent des grandes destructions. La guerre, elle transgresse l'interdit du meurtre, elle le pervertit, elle en fait une obligation de tuer. Et de l'autre côté, la guerre est une sorte de déclaration de guerre au monde. Car en fait, il s'agit d'accélérer la transformation du monde, la dilapidation, la destruction du paysage, et sinon l'anéantissement même du paysage. Vous voyez, la guerre a des effets. C'est très important de penser que la guerre a toujours une dimension contre le monde, quoi, et contre les vivants. Alors, penser la guerre, je vais pas développer ça trop longtemps, mais je termine là-dessus. Il faut penser d'abord, il faut penser qu'il y a de la guerre, il y a de l'hostilité, il y a des ennemis, il y a de l'inimitié, il y a des rapports amis-ennemis, ça existe dans toute l'histoire humaine. Donc il ne faut pas prétendre qu'il n'y aura plus de guerre, il faut la réguler. Et l'État a été un des moyens pour réguler la guerre. La montée des États a été concomitante à la baisse de la violence dans les sociétés, avec jusqu'au monopole de la violence légitime, qui est vraiment très classique dans la pensée politique moderne, de chez Hobbes par exemple. Bon. Alors Kant, ce qui est intéressant de Kant, c'est qu'il propose dans tous des travaux de droit cosmopolitique de dire qu'il y a des guerres, mais il faut conduire la guerre. Bon, les guerres, il dit, elles produisent plus de méchants. Elles fabriquent plus de méchants qu'ils n'en tuent. C'est une petite formule comme ça. Kant est toujours très drôle. Hein. Je vous recommande de lire Kant, il est toujours très drôle. Et il dit, donc, il faut conduire la guerre de manière à ce que la paix soit ensuite possible. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, même avec la guerre, parce que ça rend impossible la paix ultérieure. Voilà, ça c'était, on peut dire, dans la pensée classique de la guerre. Et justement, la démocratie, c'est de construire des rapports de force dans lesquels, justement, personne ne soit trop faible, avec vraiment cette idée de balance, d'équilibre, etc. Et des rapports de force qui soient, si possible, représentatifs des conflits réels, et non pas qui les cachent. Si je remonte à quelque chose de plus archaïque, l'Iliade, ce qui est extraordinaire dans l'Iliade, de Homère, dans ce texte, ce très vieux texte, très étonnant, c'est d'abord, comme ça a été observé par pas mal de lecteurs, c'est qu'il y a le point de vue des Grecs, mais il y a le point de vue des Troyens. Et donc, il n'y a pas. Les deux points de vue sont pris ensemble. Et Hector, par exemple, c'est un des plus beaux humains de l'Iliade. L'ennemi n'est pas une espèce de cloporte à détruire complètement, à dératiser. Enfin, vous voyez, nous, on est souvent, maintenant, quand on parle de guerre, on a une manière de traiter l'ennemi. Là, dans l'Iliade, il y a quelque chose de différent. Il n'y a pas un seul point de vue sur le monde. Il y a cité humaine parce qu'il y a société humaine parce qu'il y a plusieurs points de vue sur le monde. Et je pense que ça, c'est vraiment un point d'appui, je pense, de dire, voilà, ce qui résiste à la guerre, c'est la pluralité des points de vue. Et donc, avec tous les débats qu'on peut avoir sur... par exemple, la proportionnalité, le droit d'être neutre, le droit de laisser partir les civils, faire la différence entre les civils et les militaires, penser qu'est-ce que c'est que l'ingérence humanitaire, à quelles conditions, etc. Bon. Et le cas du soldat nu, par exemple, c'est un grand débat qui a eu lieu, un soldat nu qui est en train de faire ses besoins, est-ce qu'on peut tirer dessus ou pas? Alors, grand débat, aux États-Unis, il y a eu un cas comme ça qui a été un grand débat. On retrouve ça dans le texte biblique avec Samuel, quand David pourrait tuer Saül, qui est venu faire caca dans la grotte, là, et David était caché au fond de la grotte avec ses hommes et ses armes. Et puis quand Saül redescend dans la vallée, David derrière dit « Ah, j'aurais pu te tuer », etc. Il montre un morceau du manteau qu'il a coupé. Oui, mais il l'a pas fait. Alors là, Saül dit ben, « Tu es vraiment un grand ennemi, un jour tu seras roi, parce que tu es un bel ennemi, tu es un ennemi digne de... » Voilà. Ça, vous voyez, on voit là, tout au long de l'histoire, il y a des petites graines de réflexion sur les conditions de la guerre. Bon, mais tout ça, quand l'État est fou, si vous voulez, quand l'État devient fou, et il y a des moments où les États deviennent fous, on peut dire que, voilà, la Première Guerre mondiale, c'est des États qui deviennent fous. Hitler, c'est un État qui devient fou. D'une certaine manière, le Staline, c'est un État qui est fou. Et d'une certaine manière, Castoriadis, analysant l'évolution de la Russie après l'Union soviétique ou même avant, c'est un système qui n'existe qu'en faisant la guerre. Il a besoin de la guerre. Alors là, il y a quelque chose comme une folie. Alors comment est-ce qu'on fait? Et ça veut dire que ça correspond aussi à quelque chose qui est humain. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose comme une préférence humaine pour la furie, pour la vengeance, pour le mal, pour la dévastation. Il y a des moments où les humains, on dirait qu'ils ont envie de la dévastation. C'est ça qui est absolument terrifiant. Bayle, il écrit un truc magnifique, Pierre Bayle, notre philosophe ariégeois, il dit « L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son adversaire plutôt que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son adversaire. » Et je trouve que c'est une formule qui décrit tellement bien ce que sont les humains. Les humains sont capables de se faire du mal. Nous sommes capables de nous faire du mal. Il faut mesurer cela, je pense, pour c'est ce que Freud décrit quand il parle de Thanatos. Il y a quelque chose comme ça. Je termine parce que je suis trop long d'ailleurs. Simone Weil, dans ses réflexions sur la barbarie, elle est la philosophe, hein, enfin la femme politique, elle disait « on est barbare avec les faibles ». Elle disait pas « il ne faut pas être barbare avec les faibles ». Elle disait « de toute façon, on est toujours barbare avec les faibles ». Et donc il y a deux solutions. Soit il faut faire en sorte que personne ne soit trop faible. Voilà, il faut tout le temps, non seulement protéger le faible, mais lui donner une arme, lui donner un contre-pouvoir. Il faut qu'il puisse nous faire un peu de mal. S'il ne peut plus nous faire du mal, on va être barbare avec lui, on va l'écraser. Et l'autre possibilité, c'est de déprotéger un peu le fort. Parce que je pense que le plus grand problème aujourd'hui, c'est que les forts, ce sont ceux qui sont hyper protégés. Je pense qu'on est une société dans laquelle il y a des puissants qui sont hyper protégés. Et d'ailleurs, c'est la forme de notre société, c'est on se protège. On s'enferme, on a des grosses voitures bien blindées, vous voyez, on est dans la protection, et je pense que déprotégeons-nous. Notre mot d'ordre, si on voulait sortir des logiques de guerre, eh bien, il faudrait dire déprotégeons-nous. Je pense que c'est ça qui nous manque.